VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 18h30 à Bamako, 19h30 à Kinshasa. Bienvenue dans cette nouvelle édition du jeudi 2 février 2017. Au sommaire ce soir, incertitude et interrogation en RDC au lendemain de la mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi.
J'espère simplement que sa disparition puisse rassembler les Congolais plutôt que les diviser. C'est le défi qui se présente à tous les Congolais.
Nous entendrons Joseph Mabanga, membre du rassemblement. Des hommes armés ont pillé la ville de Bokaranga en Centrafrique. Encore une fois, la passivité de la MINUSCA est mise en cause.
Ces gens de Sidiki viennent attaquer Bokaranga sous la barbe impuissante de cette MINUSCA-là.
Et puis crise migratoire en Europe, plus de 1400 migrants ont été secourus en moins de 24 heures au large de la Libye. Enfin, ici aux États-Unis, le président Donald Trump veut durcir ses relations internationales. Enfin, nous ferons le point sur la seconde demi-finale de la CAN 2017 qui verra s'affronter le Cameroun et le Ghana. Mais tout de suite, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, la disparition de l'icône de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi, laisse la RDC dans l'incertitude. Kinshasa, l'effervescente capitale, tournait aujourd'hui au ralenti. Éric Manirakiza.
Boutique fermée, conducteur de taxi-moto, communément appelé Wewe, fervent partisan de Tshisekedi, était absent dans la circulation. Des milliers de militants, pour la plupart des jeunes, étaient rassemblés aux abords du siège de l'UDPS et des résidences du vieux Tchitchi, comme il l'appelle, et de son fils Félix. En milieu de la matinée, la vie a repris son cours normal. Hier soir, des policiers ont délogé une cinquantaine de militants qui pleuraient le défunt à l'intérieur du siège du parti. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social est décédé en pleine négociation politique cruciale pour l'avenir de la RDC. Les cadres de l'UDPS se sont réunis aujourd'hui pour organiser les funérailles et décider de la suite à donner à leur action politique.
Des gaz lacrymogènes ont été utilisés par les forces de l'ordre hier au siège de l'UDPS et de nouveaux incidents ont été signalés à la résidence de Félix Tshisekedi. Écoutons Joseph Mabanga, membre du rassemblement.
Nous sommes passés d'abord par la résidence du président Tshisekedi. Nous avons présenté les condoléances à la famille qui est là. Il y a beaucoup de combattants qui sont là depuis hier. Et nous sommes allés dans l'avenue voisine. C'est là où habite Félix Tshisekedi. Nous sommes allés, les combattants sont également là. Nous sommes beaucoup de gens. Le militaire, pendant que nous sommes dans la résidence, d'abord on a coupé les courants. Il n'y a pas de courant dans le quartier, ce qui est inacceptable. Pendant que nous étions là, un policier, Anthony, est venu et a jeté des gaz lacrymogènes. Il y a des mamans qui sont restées là évanouies. Nous, nous sommes sortis par le petit avenue derrière les maisons.
Joseph Mabanga, membre du rassemblement, il était joint par Idriss Fall. En République centrafricaine, la ville de Bokaranga, au nord-ouest du pays, a été attaquée ce matin par des hommes armés. Plusieurs personnes ont été tuées et des bases humanitaires pillées. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Jusqu'au début de la soirée, la tension était encore vive dans cette ville sécurisée depuis plusieurs mois par la MINUSCA, la force de l'ONU. Il est difficile de dire avec exactitude ce qui s'y passe en ce moment, car toutes les communications téléphoniques sont coupées. Bernard Dila, député de Bokaranga 1, dénonce l'inaction des casques bleus.
Depuis ces derniers temps, nous constatons vraiment un laxisme total de la MINUSCA. La MINUSCA était à Kui, ces mêmes groupes armés sont venus rentrer dans Kui, ils ont attaqué Kui et ils ont installé même leur base à proximité même de la MINUSCA. Aujourd'hui, la MINUSCA toujours est à Bokaranga et ces mêmes gens de Sidiki viennent attaquer Bokaranga sous la barbe impuissante de cette MINUSCA-là.
La MINUSCA n'a pas encore officiellement réagi à cette montée de violence. Selon une source proche du bureau de la coordination des affaires humanitaires à Bangui, plusieurs bases des humanitaires ont été pillées et certains personnels seraient en danger ou en cavale dans la nature. D'autres sources confirment l'attaque de l'église catholique de Bokaranga, abritant plus de 15 000 déplacés internes. Plusieurs personnes auraient trouvé la mort et de nombreux autres en fuite. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Nigeria, l'armée a revu à la hausse le bilan du bombardement du camp de réfugiés de Rahane. 112 personnes ont été tuées dans ce bombardement par erreur sur des civils et des travailleurs humanitaires mi-janvier dans le nord-est du pays. Crise migratoire en Europe, plus de 1300 migrants ont été secourus hier au large de la Libye et au moins une centaine aujourd'hui. C'est ce qu'ont annoncé les gardes-côtes italiens et des ONG à la veille d'un sommet européen sur les migrations illégales. Plus de détails avec Salwa Jaafari.
Les migrants secourus se trouvaient sur 13 embarcations de fortune. Ils se dirigeaient vers les ports de Reggio de Calabre et de Trapani en Sicile. Très tôt ce matin, un navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières a secouru 100 personnes de plus, dont 41 mineurs non accompagnés. Des nouvelles arrivées qui viennent conforter les demandes du Premier ministre libyen Fayez Sarraj, qui se réunit à Malte avec des représentants de l'Union européenne.
Nous espérons que les mécanismes de l'Union européenne pour aider la Libye seront plus pratiques. Nous n'allons pas mentionner le montant d'argent dédié à la Libye parce qu'il s'agit de très petites sommes. Nous avons besoin d'une contribution plus importante pour parvenir à stabiliser la situation.
L'UE n'a pas publié de chiffres pour son aide à la Libye, mais le montant devrait être faible par rapport aux 6 milliards d'euros promis l'an dernier à la Turquie. Pour quel endigue le flux de migrants partant de ses côtes vers la Grèce.
Le défi migratoire de la Méditerranée centrale sera le sujet principal du sommet informel européen qui se tient demain à La Valette. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a affirmé aujourd'hui qu'il était temps de fermer la voie de passage des migrants clandestins entre la Libye et l'Italie. En Tunisie, un réseau d'ONG a appelé le gouvernement à revoir sa loi terroriste, antiterroriste de 2015. Bassem Trifi, le vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, estime que cette loi est à l'origine de manquements majeurs aux règles du procès équitable, comme des cas de mauvais traitement en garde à vue. Et puis retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a effectué une visite d'État de 2 jours au Soudan du Sud. Selon l'agence de presse officielle marocaine, le Maroc s'est engagé aujourd'hui à financer à hauteur de 5,1 millions de dollars les études de faisabilité d'un projet sud-soudanais visant à construire une nouvelle capitale dans le centre du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le président américain Donald Trump affirme que les États-Unis doivent être beaucoup plus sévères en matière de relations avec d'autres pays. C'était lors d'un petit déjeuner de prière ce matin dans la capitale américaine. Jacques Aristide.
Il s'agit d'un rituel de Washington qui rassemble des élus républicains et démocrates le premier jeudi du mois de février. Le président Trump a profité de l'occasion pour critiquer l'acteur et ancien gouverneur républicain de Californie, Arnold Schwarzenegger, qui lui a succédé à la tête de l'émission de télé-réalité The Celebrity Apprentice. Ils ont embauché une star du cinéma pour me remplacer. Nous avons vu ce qui s'est passé, une chute vertigineuse des audiences, un désastre total, a déclaré Donald Trump, avant de dire qu'il veut prier pour Arnold Schwarzenegger et pour son audience, ce qui a provoqué des rires dans la salle. L'acteur n'a pas tardé à réagir sur Twitter. Schwarzenegger affirme, je cite, « Donald, j'ai une idée, pourquoi ne pas échanger nos postes? Les gens pourront de nouveau dormir tranquillement ». Fin de citation. Sur une note plus sérieuse, le président Trump a fait allusion à la politique étrangère en indiquant que les gens ne devraient pas s'inquiéter au sujet de ses récents appels téléphoniques à certains dirigeants mondiaux et d'ajouter que les autres pays ne vont plus pouvoir tirer profit des États-Unis comme cela a été le cas jusqu'ici d'après lui. Le locataire de la Maison-Blanche a également promis de faciliter la participation des groupes religieux à la politique.
L'armée syrienne a annoncé aujourd'hui avoir repris au groupe État islamique une trentaine de localités et de villages dans la province septentrionale d'Alep. À la faveur d'une vaste offensive lancée depuis 20 jours, les troupes du régime de Bachar el-Assad ont notamment pris le contrôle d'une partie de l'autoroute reliant la métropole d'Alep à la ville d'Al-Bab. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est ému de l'emploi du terme « terrorisme islamique » par la chancelière Angela Merkel lors d'un point de presse conjoint. Le président turc s'est immédiatement inscrit en faux. L'expression « terrorisme islamique » nous peine profondément. Une telle expression ne peut pas être employée. Ce n'est pas juste, car l'islam et le terrorisme ne peuvent pas être accolés, a-t-il dit. En Inde, des émeutes ont éclaté aujourd'hui pour le troisième jour consécutif dans l'état du Nagaland, dans le nord-est du pays. Les protestataires refusent l'instauration de quotas de sièges réservés aux femmes dans les instances locales. Les troubles ont déjà fait 2 morts. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place au journal de la Cannes avec Nicolas Pineau.
Bonsoir à tous. À suivre ce soir, la deuxième demi-finale à Franceville. Le coup d'envoi à 19h temps universel entre le Ghana et le Cameroun. Modèle de régularité depuis près d'une décennie, mais jamais sacré. Le Ghana, déjà finaliste en 2015, va tenter de faire aussi bien lors de la CAN 2017 face à cette surprenante équipe du Cameroun qui a rajeuni. On rappelle que le trophée fuit les Black Stars du Ghana depuis 1982. On retrouve tout de suite sur place Timothée Dodangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon. Timothée, on peut dire que le Ghana est favori sur ce match.
Oui, les Black Stars sont favoris dans la mesure où ils ont fini finalistes lors de la dernière édition face à la Côte d'Ivoire. Et ils en ont perdu face à la Côte d'Ivoire. Avec l'élimination des Ivoiriens, les Ghanais pensent qu'aujourd'hui, c'est leur tour de soulever le trophée continental. En face, le Cameroun, qui a 4 titres comme le Ghana, mais qui, depuis 2002, n'a plus gagné. Lors de la dernière CAN, ils ont été éliminés dès la phase de groupe. L'équipe est en reconstruction avec des jeunes joueurs qui ont été appelés pour compenser la défection de éléments clés. Sous la houlette du capitaine Benjamin Moukandjo, ils entendent faire un bon parcours sur Gabon en attendant la CAN 2019 qu'ils accueillent. Alors, les éléments... L'atout des Ghanéens, c'est bien évidemment cette équipe qui avait déjà joué la dernière finale contre la Côte d'Ivoire, les frères Ayou, Asamoah Gyan, Tristan Assou. Donc une équipe solide qui va faire face au jeu défensif des Camerounais. Donc un match très intéressant à voir, Nico. Timothée Dodangmaï, Franceville. VOA.
Retour sur l'immense déception à présent hier soir à Libreville pour le Burkina Faso. Les étalons sont passés tout proche de la qualification au stade de l'Amitié. Après une première période équilibrée, ce sont les Pharaons qui ouvrent le score à la 66e minute de jeu grâce à l'incontournable Salah, le joueur de l'AS Roma. Les étalons partent alors à l'assaut du but égyptien et sont récompensés par Aristide Bansé qui égalise un but partout. Les deux équipes en resteront là jusqu'à la terrible épreuve des tirs au but et les Pharaons se montrent les plus adroits. Essam El Aradi stoppe notamment le pénalty du jeune gardien burkinabé de 20 ans, Hervé Kouakou Kofi, pour qualifier les étalons du Faso. Score final, 1-0, 4-3. La déception, évidemment, pour Paolo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso, qui critique aussi l'arbitrage.
Première mi-temps, 1-1. Mon attaquant va pour la surface. Le défenseur coupe la balle avec la main. Le monsieur ou arbitre, qui c'est un grand arbitre, souffle la faute après 30 secondes. Après l'insistance du auxiliar, il donne pas un coup de carton. C'est pas normal. Penalty, c'est l'Égypte qui a gagné et bien, avec un gardien qui a une énorme expérience. Sur le match, il y a quelqu'un qui peut gagner, il doit gagner, c'est le Burkina Faso.
Paolo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso, retour également sur cette élimination avec le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonsoir. Au-delà du résultat de la demi-finale de Libreville, qui a vu la victoire des Pharaons contre les étalons du Burkina Faso, ce sont surtout les leçons à en tirer qui paraissent pertinentes. Jusqu'à la phase finale de 1996, dans la Nouvelle-Afrique du Sud, la Haute-Volta devenue Burkina Faso avait habitué les observateurs à un statut de figurant inoffensif au grand rendez-vous africain. Le tournant historique s'est opéré lors de l'édition 1998, qui avait vu le pays organisateur atteindre les demi-finales et disputer un match d'anthologie contre le Zaïre. Dès lors, la création d'écoles de football performantes a permis à ce pays, qui servait jusque-là de vivier au football ivoirien, de développer une dynamique favorable à la réussite des jeunes dans les catégories correspondantes, avec comme débouché naturel l'éclosion d'une génération exceptionnelle finaliste de la CAN 2013. C'est cette même génération qui s'est présentée en favorite face à une Égypte en reconstruction lors de cette CAN gabonaise. Mais le dicton le répète, les grandes équipes ne meurent jamais. Malgré une domination territoriale et offensive des Italiens, les pharaons qui ont eu le culot de mener au score ont conduit la belle équipe burkinabé jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but, perdu devant un monument de la formation intemporelle du Nil, le gardien El Hadary. Nous retenons que la logique a sa réalité, mais la symbolique historique a la sienne. L'Égypte, en finale, attend d'affronter un de ses concurrents au palmarès, le Ghana ou le Cameroun, pour le bouquet final. À bientôt.
Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN. Prochain point sur le tournoi, demain matin sur VOA Afrique. Et rendez-vous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Morgane Guiriec.
Proparco entend consacrer 2,7 milliards d'euros à l'Afrique. D'après Jeune Afrique, la filiale de l'Agence française de développement spécialisée dans le secteur privé a ainsi annoncé sa stratégie jusqu'en 2020. C'est un gros trou dans le budget du Ghana. Le nouveau gouvernement fait état de 1,6 milliard de dollars de dépenses non comptabilisées par le gouvernement précédent. Nouvelle taxe sur les produits alimentaires au Zimbabwe, s'élevant à 15%, elle a été mise en place dans l'objectif de renflouer ses caisses, vidées par la sévère crise financière qui frappe le pays, rapporte l'AFP. Sont concernées les pommes de terre, le riz, la margarine et la viande. Sachez enfin que le prix des produits alimentaires a nettement augmenté en janvier à l'échelle mondiale, à en croire l'indice FAO. Une hausse stimulée par le sucre et les céréales, indique l'AFP.
Toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place maintenant au dossier du jour. En République démocratique du Congo, c'est toujours l'émotion au lendemain du décès de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Âgé de 84 ans, M. Tshisekedi a marqué les esprits congolais de différentes générations depuis les années 60. Écoutons quelques réactions à Kinshasa de Walter Kui de Top Congo FM a recueilli. Top Congo FM, notre station partenaire.
Celui qu'on avait surnommé le sphinx de l'Imété laisse des traces indélébiles dans les mémoires des populations congolaises. Au siège de l'UDPS, parti d'Étienne Tshisekedi à l'Imété, plusieurs personnes sont en pleurs. Des échauffourées ont opposé les militants de l'UDPS aux policiers dans la commune de Limété.
Nous voulons faire savoir tout le monde que Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Et on ne peut pas amener les corps du président en ces moments-là. Que la CENCO puisse mettre fin à ces dialogues. En une période de 3 mois, on peut ramener les corps du président. Nous allons les plaider en honneur, avec dignité, comme il les mérite.
C'est inconsolable. Je n'arrive pas. C'est un père. C'est une personne qui a l'amour du peuple. D'abord, il prenait la place des peuples congolais.
Sa lutte, sa bravoure pour l'instauration d'un véritable état de droit en RDC, cœur de l'Afrique, restera inoubliable. C'est un sentiment de perte énorme, dit un parlementaire.
Même pour cette alternance que nous sommes tous en train de rechercher, cette alternance apaisée, démocratique et transparente. Pour nous, c'est un sentiment de perte, c'est un sentiment de tristesse. À l'instar de Moïse, Étienne Tshisekedi a prophétisé justement sur la conquête de cette terre promise qui est la démocratie, et nous estimons, nous, que nous sommes la génération de Josué, justement, qui doit entrer dans l'effectivité de cette démocratie. Nous croyons, nous restons sereins.
Étienne Tshisekedi reste le père de la démocratie, dit un fonctionnaire qui demande au chef de l'État d'élever au rang d'héros national le président de l'UDPS.
C'est grâce à lui que le dictateur comme Mobutu a pu se remettre à l'ordre pour que nous puissions aujourd'hui avoir le multipartisme. Moi, je demanderai en tout cas au président de la République d'organiser un deuil national et de faire de lui un héros pour notre notre nation. Je demanderai aussi pour honorer sa mémoire aux politiciens congolais. Ils doivent se mettre d'accord sur tout le point faisant objet des arrangements particuliers afin d'aboutir à un nouveau gouvernement avec à la tête un premier ministre issu du rassemblement.
Moi, j'aurais souhaité qu'un mausolée soit érigé pour lui ici au niveau des Limétés.
C'est l'icône qui ne peut être oubliée, dit un autre.
Avec ses compères, vous vous rappelez de l'histoire des 13 parlementaires en 1982. Ces gens qui se sont soulevés contre la dictature de Marcel Mobutu. C'est à partir de cette époque-là que le multipartisme a vu le jour en République démocratique du Congo. C'est vraiment une icône, un modèle pour tout politicien congolais. Vraiment, coup de chapeau à lui, mais il part très tôt. La nation congolaise avait encore besoin de lui.
Kinshasa, Walter Nkouy de Top Congo pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Direction le Mali à présent, où le chef d'état-major du CJA s'est exprimé. Seule une action commune des forces en présence au Mali peut combattre le terrorisme, a affirmé le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad du Congrès pour la justice dans l'Azawad. Il était à Bamako dans le cadre du comité de suivi de l'accord pour la paix. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Loin de ses bases militaires dans la région de Tombouctou et Taoudeni, le chef d'état-major du Congrès pour la justice dans l'Azawad, CJA, était à Bamako. Cela afin de négocier l'intégration de son mouvement dans les structures techniques de mise en application de l'accord d'Alger. Le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad avoue que l'application de l'accord pour la paix ne bouge pas.
Ça piétine, ça n'avance pas comme on le souhaite, parce que ça traîne, et plus ça traîne, il y a certains ennemis qui en profitent. Donc, tellement notre problème, c'est en un mot, la représentativité au niveau de certaines commissions de l'accord, le CSA, la commission de défense, la sous-commission de défense et consorts, la CTS. Nous sommes une force, donc on a un problème aujourd'hui de représentativité au niveau de ces commissions parce qu'on se sent un peu délaissé et personne ne parle à notre nom.
Précédemment commandant des bases S de la CMA dans la région de Tombouctou, le colonel Abbas Ag Mohamed Ahmad a quitté la CMA avec ses hommes. Ils sont tous dans le CJA et possèdent deux bases militaires. Ils continuent de sécuriser certaines localités des régions de Tombouctou et Taoudeni, non sans peine.
Mon poste de Farache a été attaqué deux fois. En juin, il était attaqué. On a eu un mort. Les extrémistes ont eu cinq. La deuxième fois, c'est bon décembre passé, où on a repoussé les ennemis. Ils ont eu deux morts. Nous, on n'a pas eu de morts, on n'a pas eu de blessés. L'explication de cette insécurité, c'est le terrain est vide. C'est un vaste terrain et les moyens manquent parce que combien de fois j'ai ramené des animaux volés, combien de fois on a saisi des motos, une centaine de motos volées qu'on a remis à Tonka Yagunda.
Pour cet homme de terrain, la lutte contre le terrorisme doit se faire avec rigueur, en ne laissant aucun espace aux ennemis de la paix. Colonel Abbas Ag Mohamed.
C'est pas ça la solution. La solution, c'est d'occuper les terrains et de harceler les islamistes dans leur fief, en plein désert. Il faut vraiment de la rigueur.
En tout cas, le Congrès pour la justice dans l'Azawad CJA travaille avec les autorités maliennes pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans les localités de Tombouctou où se trouve leur base militaire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Plusieurs pays africains essayent de mettre en place un dispositif juridique pour faire face aux abus sur Internet. En effet, avec le développement des réseaux sociaux et l'accès à Internet à haut débit, plusieurs pays africains sont en retard dans la mise en place d'un arsenal juridique dédié au numérique. C'est le cas au Burkina Faso. Reportage à Ouagadougou de Zoumana Wanogo.
Avec le développement rapide de l'Internet et des réseaux sociaux, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays, n'échappe pas à l'usage abusif. Le capitaine Guy Hervé Yé, directeur de communication de la gendarmerie nationale, fait l'état des lieux.
Pour le moment, nous ne disposons pas d'une plateforme qui permettrait de centraliser toutes les plaintes, mais à l'heure actuelle, ce qui est plus utilisé, c'est nos brigades qui reçoivent un certain nombre de plaintes par rapport à des actes de cybercriminalité ou d'escroquerie. Par exemple, nous avons souvent des plaintes directes de personnes qui ont été escroquées à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook ou même par les mails, les adresses mail tout simplement. Il y a aussi la page Facebook de la Gendarmerie nationale qui reçoit régulièrement un certain nombre de plaintes de populations qui constatent qu'elles ont été abusées à travers les réseaux sociaux. Ça concerne les escroqueries, mais aussi de plus en plus, ça concerne aussi des actes de proxénétisme, de pédophilie. Nous, actuellement, la priorité, c'est vraiment, par exemple, ceux qui disent des choses qui peuvent inciter à des troubles à l'ordre public, mais aussi à, par exemple, des incitations, une apologie du terrorisme, par exemple.
Que peut faire le régulateur face à cette donne? Écoutons lui, Modeste Ouedraogo. Il est le directeur général des affaires juridiques au CSC, Conseil supérieur de la communication.
Il faut préciser d'abord que Facebook n'est pas, en tout cas, de la communication publique, a priori. Mais quand on se réfère au contenu, c'est bien de la communication publique. Mais quand on se réfère à la loi, Facebook devrait échapper, en tout cas, de par la définition donnée par la loi, à tout contrôle du régulateur. Mais nous nous basons sur le fait que Facebook est un relais des médias traditionnels. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a même des médias qui se réfèrent au contenu Facebook pour créer de l'information. Alors, ce qui fait que nous ne pouvons pas réguler en dehors de Facebook, c'est-à-dire sans référence à ce réseau social. Il faut qu'on sache que Internet n'est pas une zone de non-droit.
Tassiré Sawado dit Tastas, il a gagné un procès en diffamation. Il explique.
Moi, j'ai demandé juste un procès pédagogique, ni emprisonnement, rien. Un franc symbolique, juste pour qu'on discipline les réseaux, parce que ça peut être un facteur de désunion de tout ce qui suit comme mésentente. Ça peut jouer sur la cohésion, ainsi de suite.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et ici aux États-Unis, le nouveau patron du département d'État, Rex Tillerson, a promis de travailler pour le succès de la diplomatie américaine, tout en disant compter sur la collaboration et l'expertise d'un personnel diplomatique pas entièrement acquis à la cause du nouveau président. Plus de 900 employés ont signé une pétition contre les mesures de Donald Trump sur l'immigration. Chérubin Dorcil a joint Léonard Wanchekon, professeur de sciences politiques à l'université de Princeton.
Bon, moi, je prends ça avec beaucoup d'appréhension. D'abord parce que il faut l'expérience politique, il faut l'expérience diplomatique et il faut avoir surtout un sens très clair des enjeux stratégiques actuels avant de jouer un tel rôle.
Excusez-moi de vous interrompre, professeur, mais ces affaires, justement, l'ont mis sur le parcours de beaucoup d'hommes d'État. Il a de l'expérience en ce sens.
Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est pas le fait de rencontrer les acteurs dans ces secteurs-là. Le problème, c'est d'avoir l'expérience et d'avoir les connaissances qu'il faut des enjeux. Moi, j'aurais préféré, clairement, disons, un politique et un diplomate à ce poste-là.
Et que pensez-vous des rapports de M. Tillerson avec, par exemple, Vladimir Poutine?
Mais c'est très inquiétant, de mon point de vue, parce que la Russie, c'est quand même... pas le modèle de la démocratie. La Russie, c'est pas le modèle, même dans le monde des affaires, c'est pas le modèle de transparence et d'éthique. J'aurais même préféré la Chine, de ce point de vue, parce que, bon, ils essaient de faire les choses d'une autre façon. Et le système chinois, c'est un système qui est loin d'être aussi répressif et aussi autoritaire que le système russe, quoi. Voilà. Donc, avec tout ce qui se passe sur le plan international actuellement, et notamment dans les pays de l'Est, l'Ukraine en particulier, C'est quand même difficile à comprendre que quelqu'un qui a des rapports aussi étroits avec l'un des adversaires les plus acharnés des États-Unis, que le ministre des Affaires étrangères des rapports privilégiés avec celui-là.
Quelle direction voyez-vous prendre la diplomatie américaine sous Rex Tillerson?
C'est difficile à dire. Bon, ce qui est clair, c'est que les rapports avec la Russie vont s'améliorer, peut-être pour le meilleur ou le pire. De l'autre point de vue, je pense que l'Afrique, en particulier, sera pas une priorité, parce que l'enjeu économique là-bas n'est pas aussi élevé que l'Asie et l'Europe de l'Est en particulier. Et je pense que ça risque aussi d'être une diplomatie, une politique étrangère assez musclée.
43 sénateurs sur 100 n'ont pas voté pour Rex Tillerson. Il va diriger un département actuellement en pleine grogne. Il y a plus de 900 employés qui ont signé une pétition dénonçant le décret sur l'immigration du président Trump. Il va devoir être bon manœuvrier.
C'est ça, mais je ne sais pas s'il va le faire. Mais ce qui est intéressant, ce que je trouve très rassurant, et c'est ça la leçon, tout le monde parle de tout le négatif, tout le mal qu'on pense de Donald Trump. La situation telle qu'elle se présente, elle est inquiétante dans un certain sens, mais elle est aussi très rassurante dans un autre. Donc...
C'était Léonard Wanchekon de l'Université de Princeton. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre fidélité. Plus d'informations, 24h sur 24 sur voaafrique.com.